Radio Aigle.
La radio multiculturelle. Aigle.
Bonjour, nous sommes la classe 11VG d'Aigle. Nous sommes super contents de vous retrouver pour une deuxième émission spéciale littérature et spéciale nouvelle.
La dernière fois, on a eu déjà 4 nouvelles présentées. J'espère que vous les avez bien appréciées.
D'ailleurs, vous pouvez les réécouter sur Radio Bus si vous les avez ratées. Le jeudi à 9h, le samedi à 13h et le dimanche à 13h. Ou bien sur le podcast de Radio Bus 24h sur 24.
Alors, on aura Mathilda qui vont nous parler du diable amoureux, Florian et Guillaume sur le chat noir de Edgar Allan Poe, Alexis et Quentin sur le train de minuit de John Luce.
Et enfin, Kylian et Caroline vont nous présenter une nouvelle de Auguste de Villiers, Vera. Et nos meilleurs techniciens, Léa et Nathaniel. Et nous vous laissons écouter Sorry de Lynn Marlin. Vilma, penses-tu qu'un diable peut tomber amoureux malgré sa méchanceté ?
Je crois pas, mais en tout cas, je pourrais pas tomber amoureuse d'un diable. D'abord, ça ressemble à quoi un diable ?
Un personnage tout rouge avec des cornes et une grande queue.
Ah bah si tu veux savoir, demandons à Laura et Mathilda qui nous raconteront leurs nouvelles sur le diable amoureux.
Vous aimez les mots ? Vous aimez les belles histoires ? Alors écoutez, sans attendre, la rubrique littérature.
Salut Mathilda.
Salut Laura. Tu lis souvent des nouvelles ?
Oui, celle que je préfère, c'est celle de genre fantastique.
C'est quoi le genre fantastique ?
C'est une histoire où il y a des irruptions de surnaturel dans la réalité et où des événements inexplicables ont lieu.
D'accord. Et tu connais Jacques Cazotte ? Tu sais, celui qui a écrit Le Diable Amoureux ?
Oui, c'est un écrivain français né au XVIIIe siècle, plus précisément le 7 octobre 1719 à Dijon.
C'est ça, et il est d'une famille bourgeoise qui faisait principalement de la négociation de vin. À l'âge de 21 ans, il étudie la littérature et le droit.
Il a d'abord travaillé à Paris auprès de Maurepas, un procureur, puis, sur son conseil, il entre dans l'administration de la marine.
Ensuite, en 1941, il publie une parodie d'un conte oriental. Puis en 1942, il sort une féerie qui est alors très à la mode et un an plus tard, il reçoit un brevet d'écrivain.
Après ça, en 1947, il est nommé écrivain principal de la marine. Deux ans plus tard, il devient contrôleur de la marine aux îles Duvon et à la Martinique. Puis, en 1950, il est nommé commissaire.
Ensuite, il rencontre Elisabeth Roignon, une créole qu'il épousera en 1761 et dont il aura trois enfants. À partir de ce moment, il sortira plusieurs histoires.
En 1972, il se fera guillotiner sur la place du Carrousel à Paris, car il a pris parti contre la Révolution française parce qu'il voyait ça comme une gigantesque incarnation de Satan.
Ses derniers mots furent « Je meurs comme j'ai vécu, fidèle à mon Dieu et à mon roi ».
Et tu l'as lu sa nouvelle ?
Oui, mais ça dit qu'on s'en parle un peu ?
Oui. Dans la nouvelle, il y a trois personnages principaux. Il y a Alvar, un jeune Espagnol qui est garde du roi à Naples, Soberano, un de ses compagnons et amis qui va montrer à Alvar comment convoquer Belzébuth, le diable.
Alvar est très passionné par la magie. Alors un jour, Soberano va lui proposer de lui expliquer comment invoquer le diable.
Quelques jours après, Alvar retrouve Soberano et deux autres hommes pour aller dîner. Après ça, ils partent se promener vers les ruines de Portici.
Arrivé dans un lieu mystérieux, Soberano lui explique ce qu'il devait dire et faire. Ensuite, Alvar invoque Belzébuth qui apparaît sous forme d'horrible chameau. Le jeune Espagnol lui dit de changer de forme pour devenir un chien, ce qui serait mieux pour lui.
Puis, Alvar lui dit d'obéir à ses ordres et le diable obéit.
Tu as aimé cette nouvelle, Laura ?
Je n'ai pas vraiment aimé cette nouvelle car elle est assez bizarre et elle est difficile à comprendre. Et toi, tu l'as aimé ?
Moi aussi, je ne l'ai pas trop aimé car c'est un texte du 18e siècle, du coup il est aussi difficile à comprendre.
Alors maintenant, je vais lire la partie où Alvar invoque le diable. Un peu rassuré par mes réflexions, je me rassois sur mes reins. Je prononce l'invocation d'une voix claire et soutenue. Et en grossissant le son, j'appelle à trois reprises et à très court intervalle Belzébuth. Un frisson courait dans toutes mes veines et mes cheveux se hérissaient sur ma tête. À peine avais-je fini, une fenêtre s'ouvre à deux bâtons vis-à-vis de moi, au haut de la voûte. Un torrent de lumière plus éblouissante que celle du jour fond par cette ouverture. Une tête de chameau horrible, autant par sa grosseur que par sa forme, se présente à la fenêtre. Surtout, elle avait les oreilles démesurées. L'odieux fantôme ouvre la gueule et d'un ton assorti au reste de l'apparition, nous répond « Chez voix ». Toutes les voûtes, tous les caveaux des environs retentissent à l'envi du terrible chevoix. Je ne saurais peindre ma situation. Je ne saurais dire qui m'en soutint mon courage et m'empêcha de tomber en défaillance à l'aspect de ce tableau, au bruit plus effrayant encore qui retentissait à mes oreilles.
Je sentis la nécessité de rappeler mes forces. Une sueur froide allait les dissiper. Je fis un effort sur moi. Il faut que notre âme soit bien vaste et ait un air prodigieux. Une multitude de sentiments, d'idées, de réflexions touchent mon cœur, passent dans mon esprit et laissent leur impression tout à la fois. La révolution s'opère, je me rends maître de ma terreur. Je fixe hardiment le spectre. Que prétends-tu toi-même, téméraire, en te montrant sous cette forme hideuse ? Le fantôme balance un moment. Tu m'as demandé, dit-il, d'un ton de voix plus bas. Sur ces derniers mots, on va vous laisser sur la chanson « Comme des enfants » de Cœur de Pirate.
Ce mal, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant, et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou l'œuvre peut naître.
jambes d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore, et toi tu m'aimes pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Et malgré ça, il je t'aime pas plus fort, mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort.
Amina, sais-tu qu'il ne faut jamais faire du mal à un chat noir?
Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on leur fait du mal?
On dit que c'est une incarnation du diable et que ça porte malheur. Depuis les Égyptiens, le chat noir représentait le diable et ses yeux réfléchissant la lumière la nuit symbolisaient le dieu soleil. Mais de nos jours, il y a plein de gens qui ont un chat noir et cela ne veut pas dire qu'ils ont le diable avec eux.
Maintenant, nous laissons Florio et Guillaume qui vont nous expliquer avec leurs nouvelles sur le chat noir.
Salut Guillaume.
Salut Florian.
Alors, de quoi allons-nous parler?
De Edgar Allan Poe qui a écrit la nouvelle qui se nomme Le chat noir.
Avant de vous parler de la nouvelle, nous allons vous présenter l'écrivain.
Edgar est né en 1809 à Boston dans une famille de comédiens et il est mort en 1849 à 40 ans d'une maladie. Il écrivait quel style de nouvelles?
Il écrivait des nouvelles de genre policier dont il est considéré comme l'inventeur de ce genre littéraire et aussi des histoires de science-fiction. Mais l'histoire que nous allons vous présenter est de style fantastique.
Dans ce style, le cadre doit être réaliste, mais des événements surnaturels ou apparitions de personnages irréels vont arriver au cours de la lecture.
Maintenant, nous allons vous parler de la nouvelle.
Cette histoire a été publiée en 1843. Il y a trois personnages principaux. Tout d'abord, le maître du chat qui est vétérinaire. C'est un amoureux des animaux. Il est marié à une femme qui aime les animaux comme lui et lui offre des bêtes de compagnie. Le chat noir est intitulé Pluton. Le proprio pense qu'il est maudit par Satan.
Au début, il est fou amoureux de ses animaux et de sa femme, mais cela va changer au cours de l'histoire. Un soir, il est rentré et a battu tous ses animaux, ainsi que sa femme. Sauf Pluton, car il avait encore une considération qui l'empêchait de le malmener.
Maintenant, Florian va vous lire un extrait.
Une nuit, comme je rentrais au logis très ivre, au sortir d'un de mes repères habituels, des faubourgs, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais lui effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me connus plus, mon âme originelle s'emballa, tout d'un coup s'enveloppée de mon corps, et une méchanceté hyper diabolique, saturée de djinn, pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon gilet un canif. Je l'ouvris. Je saisis la pauvre bête par la gorge et délibérément, je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Je rougis. Je brûle, je frissonne en écrivant cette damnable atrocité.
Nous avons oublié de vous dire que Edgar Allan Poe a fait d'autres nouvelles à succès comme Le Corbeau, La Chute de la Maison Usher ou Hop Frog.
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt.
Au revoir, et nous vous laissons sur la musique de Thriller de Michael Jackson.
Lurking in the dark. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight.
Amina, as-tu déjà accepté quelque chose d'une personne que tu ne connais pas vraiment ?
Bah ouais, une ou deux fois. Ce n'est pas très important, non ?
Oui, ça peut être, car on ne sait jamais ce que cette personne a pu y mettre à l'intérieur. On dit ça pour les enfants, mais nous, on est grands, on sait qu'on ne doit pas accepter des choses de n'importe qui.
Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment important. Et je ne vois pas le rapport entre cette chose et le train de minuit. Alors demandons à Alexis et Quentin de nous raconter la nouvelle sur le train de minuit.
Bonjour, Quentin et moi, on va vous présenter un récit fantastique qui s'intitule Le train de minuit, qui a été réalisé par John Lutz.
Le genre fantastique a fait sa première apparition en 1772 en France, avec l'œuvre du Diable amoureux.
Le Diable amoureux a été écrit par Jacques Cazot.
La véritable apogée du récit fantastique se passe au 19e siècle, et cela affecte toute la littérature européenne. Et cela apparaît sous la forme d'un récit court.
Au début, le récit fantastique est plutôt influencé par le roman noir anglais, et dans ce roman, il règne notamment le macabre, la terreur, les fantômes, les squelettes ou les cimetières au clair de lune.
Ah ouais, des trucs assez glauques.
Ouais, effectivement.
Et le fantastique n'a pas fini son élan. Au XXe siècle, il reprend un certain boost, notamment grâce aux interrogations de l'homme sur la condition humaine.
Maintenant, on va vous parler de l'auteur. John Thomas Lutz est né le 11 septembre 1939, au Texas. Il est tour à tour ouvrier du bâtiment, ouvreur dans un théâtre, magasinier, camionneur ou encore standardiste.
C'est un auteur prolifique, ce qui veut dire qu'il produit beaucoup de nouvelles, qui sont régulièrement publiées. Il devient écrivain à plein temps en 1975. Il est à plusieurs reprises récompensé par son œuvre, comme par exemple pour les Contes de la mer Loire, qui a reçu le prix de l'association 813 du meilleur recueil de nouvelles en 1989.
Bon, maintenant parlons de notre nouvelle. D'abord les personnages. Le héros de l'histoire s'appelle Ullman. On n'a pas vraiment d'informations. On sait par contre qu'il n'est pas très riche, donc il n'est pas vraiment bien habillé. Quentin, veux-tu bien nous parler de l'autre personnage ?
Oui, elle s'appelle Cyrilla. Elle a une trentaine d'années, elle est grande, gracieuse, elle a des cheveux bruns et des très grands yeux bleus. Elle avait aussi un très beau corps, d'après Ullman.
Il n'y a pas d'autres personnages. Ullman et Cyrilla sont les deux seuls vrais personnages de cette nouvelle.
L'histoire se passe principalement dans une grange délabrée. L'intérieur est sale et très pauvrement meublé.
Au début de l'histoire, Ullman est à la gare. Il entend un train arriver et il saute dedans. Pendant le trajet, il voit des lumières qui venaient à moins d'un kilomètre. Il pense qu'il pourrait peut-être y passer la nuit, et au pire, il pourrait y demander à manger.
Il saute du train quand le moment fut venu, puis il arrive vers cette lumière. Malheureusement, le bâtiment qui était là ne faisait pas envie à Ullman.
Ullman se dit qu'il fallait mieux passer la nuit à la Belle Étoile et revenir là au petit matin. Mais il allait partir quand une femme arriva. C'était Cyrilla.
Ullman s'enfuit alors pour dormir sous un arbre. Le matin, il se réveille, mais la maison semblait encore plus sordide.
Il voit à nouveau Cyrilla. Cette fois, il lui parla et lui demanda si son mari était là. Mais Cyrilla lui répondit que non. Cyrilla avait vu Ullman sauter du train et elle lui demanda ce qu'il faisait ici.
Ullman répondit qu'il allait chercher du travail en Californie. Peu de temps après, Cyrilla accepta de faire à manger à Ullman. Et pour la remercier, il lui proposa de faire des travaux chez elle.
Ullman lui demanda une question qui va changer sa vie. Et pour deviner cela, on vous laisse découvrir la suite, pour savoir ce qu'il va se passer. J'ai bien aimé cette histoire, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'élément déclencheur. Et toi, Quentin ?
Moi, j'ai trouvé que c'était beau de suivre un moment décisif de la vie d'un homme sans maison.
Et pour finir, nous allons vous lire un passage de cette nouvelle.
Très loin, devant Ullman, le sifflement perçant de la locomotive fit vibrer l'air de ses notes prolongées et nostalgiques, assez semblables au gémissement désespéré d'une sirène lointaine. Ullman, prenant appui contre la paroi de contreplaqué grossier, cahoté par le roulis du wagon de marchandises, se leva lentement. Il s'aperçut que le train ralentissait déjà. Il ne tenait pas à aller jusqu'à la gare de triage d'Herberville, car on lui avait dit que les flics s'y trouvaient. Qui s'y trouvait était spécialement coriace, surtout à cette époque de l'année, où les vagabonds et les ramasseurs de fruits nomades se rendent dans l'ouest.
Et voilà, notre nouvelle est finie. Nous allons vous laisser sur la musique de Johnny Hallyday dans ce train.
Dans ce train qui me ramène vers toi, dans ce train c'est le plus beau jour pour moi. À ce train je lui en voulais pourtant, à ce train qui nous séparait souvent de nos adieux. Au bout du quai, les larmes aux yeux. Oui, ce train, je lui en voulais. Aujourd'hui, c'est différent. Me voilà pour longtemps. Je sais que tu m'attends. Oh, oh oui, oh, oh oui. Dans ce train, oui, je reviens pour toujours. Dans ce train qui roule vers mon amour. Oui, ce train, je l'aime bien aujourd'hui. Oui, ce train est devenu mon ami à mon retour. Au bout du quai, entre mes bras. Oui, tu vas pleurer de joie, car pour toujours je reviens. Aujourd'hui j'en suis certain, je me sens bien dans ce train. Oh, oh oui, oh, oh oui. À mon retour, au bout du quai, entre mes bras. Oui, tu vas pleurer de joie, car pour toujours je reviens. Aujourd'hui j'en suis certain, je me sens bien dans ce train. Oh, oh oui, oui, dans ce train.
On arrive presque à la fin de notre émission. Dommage. Tu sais, j'aime beaucoup les histoires mystérieuses et qui font un peu peur. T'en aurais pas une à me proposer ?
J'en ai pas mal, mais t'aimes quoi exactement ?
Tout ce qui est sur des esprits ou des morts.
Ah, je sais ce qui serait bien pour toi, mais Kylian et Caroline t'en diront un peu plus sur ça avec leur nouvelle sur Vera. Tu vas être servi avec des histoires de mort.
Vous aimez la lecture ? Vous aimez les mots ? Vous aimez les belles histoires ? Alors écoutez sans attendre la rubrique littérature.
Bonjour Caroline, comment vas-tu aujourd'hui ?
Salut, ouais, pas terrible. Je viens de finir une nouvelle qui m'a laissé un peu troublée.
On t'a annoncé une mauvaise nouvelle ?
Quoi ? Mais non, j'ai dit une nouvelle. Ce sont des histoires courtes.
Ah, pardon, j'avais pas compris.
C'est pas grave.
Donc tu disais, tu as lu une nouvelle. Pourrais-tu m'en dire davantage à son sujet ?
Bien sûr, cette histoire s'appelle Vera. C'est aussi un genre fantastique écrit par Auguste Deville.
Un genre fantastique ? C'est comme c'est ce fameux genre où au début de chaque histoire, les personnes ont une vie comparable à la nôtre. Et par un événement genre une mort, un mariage, une disparition, vont bouleverser et amener les personnages dans une sorte de monde parallèle, voire irréel. D'une telle manière que le lecteur doutera toujours de la fin de l'histoire qui est souvent improbable ou surprenante.
C'est juste.
Tu as bien dit qu'il a été écrit par Auguste de Villiers. C'est bien le même personne qui a écrit Contes cruels, Axel, Lève Futur et Virgile et Paul.
C'est exact. Il est né le 7 novembre 1838 et mort le 18 août 1889. Il était écrivain, romancier, nouvelliste, dramaturge et poète. Mais dis-moi, Kylian, tu sembles bien connaître le fantastique et l'auteur de Vera. Veux-tu que je te parle de cette nouvelle ?
C'est bien, oui. C'est quoi l'histoire ?
La nouvelle commence dans les années 1800, en automne. Le comte d'Atoll, un jeune homme de 35 ans, vient d'enterrer sa femme du nom de Vera. En deuil, le jeune veuf ressasse ses souvenirs avec sa bien-aimée, au point d'en avoir des hallucinations.
Elle m'a l'air bien, cette nouvelle. Parle-moi un peu des personnages qu'il y a dedans.
Nous avons comme personnage principal le comte Roger d'Atoll. Il était marié avec Vera, mais elle est décédée quelques mois après leur mariage. Après son enterrement, le comte n'accepte pas la mort de sa femme et commence à halluciner. Il voit tout le temps sa femme avec lui et ressent encore sa présence. Il en est très sensible. Il y a aussi Raymond, le fidèle serviteur du comte. Il cache la folie d'Atoll et reste toujours à ses côtés tout en jouant le jeu. Il se montre compréhensif pour tout le monde.
Ah ouais? Désolée Caroline, pendant que tu expliquais qui sont les personnages, j'étais en train de lire cette fameuse nouvelle.
Tu es sérieux ? Tu peux écouter quand on te parle ? Bon, ok, tu en étais où dans ta lecture ?
Dans le milieu de l'histoire. Attends, je te lis là où j'en suis. La gêne des premiers jours s'efface vite. Raymond, d'abord avec stupeur, puis par une sorte de déférence et de tendresse, s'était ingénié si bien à être naturel que 3 semaines ne s'étaient pas écoulées, qu'il se sentit par moments presque dupe lui-même de sa bonne volonté. L'arrière-pensée pâlissait, parfois éprouvante une sorte de vertige, il eut besoin de se dire que la comtesse était positivement défunte. Il se prenait à ce jeu funèbre et oubliait à chaque instant la réalité. Bientôt, il lui fallut plus d'une réflexion pour se convaincre et de se ressaisir. Il vit bien qu'il finirait par s'abandonner tout entier au magnétisme effrayant dont le comte pénétrait peu à peu l'atmosphère autour d'eux. Il avait peur, une peur indécise, douce.
C'est un beau passage de l'histoire. Et sinon, quelles sont tes impressions sur cette nouvelle ?
J'en dis que pour arriver à en avoir des illusions, il faut quand même être vraiment troublé par un événement, ici la mort de la femme d'Atoll, pour ne pas pouvoir se dire que celle qu'on aime le plus au monde est partie pour toujours et qu'on ne la reverra plus jamais.
C'est bien, Kylian, au moins tu as compris quelque chose aujourd'hui, même si tu n'as pas écouté la moitié de ce que j'ai dit.
Pardon, tu disais quelque chose ?
Non, rien, oublie. Écoute donc ce morceau de musique pour te changer les idées.
Ah, mais c'est Vera de Pink Floyd ?
Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day?
Alors cette fois-ci, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission.
On remercie beaucoup Laura, Mathilda, Guillaume et Florian, Quentin et Alexis, Caroline et Kylian et enfin nos meilleurs techniciens Léa et Nathaniel. Bon bah, je me tire moi.
Attends, pas encore. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter le jeudi à 9h, le samedi à 13h et le dimanche à 13h. Ou bien sur le podcast de Radio Bus 24h sur 24.
Et nous vous laissons avec Maître Gims et je me tire.
Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après je vais changer de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux dire juste pour la rire. Les gens me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de maux de tête. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime. Malgré ta couleur ébène. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life.
je me tire. Demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rire. Je vais devenir stop. Ne réfléchis plus, me guide, stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir stop. Ne réfléchis plus, me guide, stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire je voulais...
Radio Aigle, la radio multiculturelle.